l'heure, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve encore et toujours pour partager vos expériences de vie avec moi, ma camarade Ombline. Bonjour Ombline.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien, bonjour à tous.
Jusqu'à 16h, nous parlons de vous, de ce que vous traversez, car votre vécu nous intéresse. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, disait Lamartine. Pourtant, de nombreux couples doivent faire avec aujourd'hui, ils ne vivent pas sur le même continent, dans la même ville, leur travail les oblige à devoir se séparer la semaine. On les appelle les couples TGV ou encore les intermittents du foyer et ils vivent leur amour à distance. Cela demande beaucoup de sacrifices composés avec le manque, devoir tout se dire au téléphone, peu de contact physique. Alors, comment préserver son couple lorsque l'on est loin l'un de l'autre et que le temps passé ensemble, eh bien, finalement, est compté? À quoi ressemble le quotidien, notamment avec des enfants?
Si la distance aiguise les sens, j'ai le cœur taillé comme un couteau. Tu comptes les jours et mes absences.
Alors, le couple supporte-t-il cette distance? Quelles sont vos expériences? C'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Oui, comme chaque jour, vous n'hésitez pas à composer le 3921 pour témoigner sur l'antenne d'Europe 1. C'est le standard, 3921, 50 centimes la minute. Le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1 est à votre disposition pour nous écrire, également Twitter, hashtag Europe 1.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et le début de cette émission illustré par la musique du groupe La Rue qu'est à nous. Et nous allons accueillir deux personnes pour commencer cette émission, Cerise et son conjoint Arthur. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour. Alors, je vais d'abord me tourner vers vous, Cerise. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors, j'ai 29 ans et je vous appelle de Paris.
D'accord. Alors, Arthur, vous le connaissez depuis longtemps. Vos deux mères étaient très amies. Et puis, à un moment, la vie a fait que vous vous êtes perdu de vue. Il a déménagé aux États-Unis. À quel moment et pourquoi vous avez repris contact avec Arthur?
Alors, vu que nos mères étaient meilleures amies, un jour, en été, elle était du coup chez mes parents, chez ma mère. Et elle m'a dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles l'un et l'autre, puisque à part joyeux anniversaire, bonne année et joyeux Noël sur Facebook, on ne se tenait pas plus au courant de nos vies. Donc elle m'a dit, est-ce que ça m'intéressait d'avoir son contact pour qu'on reprenne contact? Voilà, elle n'avait aucune idée romantique derrière, mais juste qu'on reprenne contact. Et c'est ce que j'ai fait, du coup je lui ai écrit. Et on a commencé à discuter, c'était pas top top par écrit, parce que Arthur est assez timide, donc par écrit c'était assez lapidaire, mais en fait par WhatsApp, envoyé par vidéo, par FaceTime, c'était beaucoup plus fluide et je l'ai trouvé super beau dès la première fois, etc. Donc le courant est immédiatement passé à la caméra et voilà. Et lui, il faisait donc ses études aux États-Unis,
d'accord,
à Austin.
Et alors, qu'est-ce qui vous a décidé à lui rendre visite pendant 3 semaines aux États-Unis?
En fait, pendant 4 mois, on s'appelait constamment, des heures durant. Donc il y a eu vraiment un lien qui s'est créé, une sorte de dépendance l'un de l'autre. En fait, on tombait amoureux. Moi, je me refusais à me l'avouer, mais voilà. Et donc, il m'a invité. Il m'a dit, viens me voir. Et j'ai quand même pris un billet d'avion pour 3 semaines aux États-Unis. Et lorsqu'on s'est vu, de visu, ça allait de soi, en fait. Ça allait de soi. Voilà.
Alors, vous vous êtes mis ensemble lors de ce séjour aux États-Unis qui a duré 3 semaines. Mais après, ce qui a dû être un vrai crève-cœur, c'est qu'il fallait revenir en France. Comment se sont déroulés les premiers mois que vous avez passés l'un et l'autre à distance?
Alors, relativement bien, puisque on est assez indépendants chacun, je veux dire émotionnellement parlant. Donc, on a recommencé ce qu'on faisait depuis le début. On parlait par vidéo, on se textotait tout le temps. Il y a un énorme décalage horaire, ce qui fait qu'on ne se gênait pas dans nos vies mutuelles, puisque moi, je faisais toute ma journée de boulot, il dormait, parce que c'était la nuit chez lui, et lorsqu'approximativement c'était la fin de journée pour moi, lui, il se réveillait, il allait en cours. Donc, voilà, en fait, tout fonctionnait bien, on va dire. Donc, malgré le manque physique l'un de l'autre, on était constamment au téléphone, par texto, voilà. Donc, on était là sans véritablement physiquement être là.
Alors, j'imagine tout de même que, en plus, le début d'une histoire d'amour est toujours très dense. Il devait y avoir un certain manque de part et d'autre. Qu'est-ce qui était le plus difficile à supporter dans cette relation?
De ne pas pas pouvoir partager physiquement des choses ensemble, par exemple aller au cinéma ensemble, manger ensemble, aller au restaurant, aller à des expos ensemble, on est obligé de se les raconter. Ou alors on regardait des films sur Netflix, mais chacun de notre côté, on les commentait ensemble. Donc voilà, vraiment le quotidien physique d'un couple, c'est ce qui pouvait nous manquer. Après, on se voyait assez régulièrement, puisque lui étant étudiant aux États-Unis, c'est pas les mêmes rythmes de vacances qu'en France. Il y a un peu plus de vacances, on va dire, sur des plus grandes plages. Donc de mai à août, il était, on va dire, libre. Donc du coup, il pouvait venir en France. Et là, on partait en voyage. Donc on a fait beaucoup de voyages ensemble, comme des grandes vacances à chaque fois qu'on se retrouvait. Donc on a fait des pays d'Europe, des pays d'Afrique, etc. Donc on s'était dit, voilà, quand on ne se voyait pas, effectivement, on était loin de l'autre, mais quand on se voyait, c'était très intense.
Alors, vous restez en ligne avec nous, Cerise et Arthur. Nous allons voir que vous avez eu ensuite un bébé ensemble, alors que vous n'habitiez toujours pas sur le même continent. Bon, il a fallu quand même sûrement vous rencontrer pour ça, mais on va continuer à écouter la suite de votre histoire dans quelques instants.
Europe 1. L'amour malgré la distance, venez partager avec nous votre histoire au 39-21. Envoyez-nous vos messages, vos commentaires sur Twitter, hashtag Europe 1 ou via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Le couple peut-il supporter la distance? Comment construire une relation durable quand on ne vit pas côte à côte? Le 39-21 pour témoigner, vous êtes avec Olivier Delacroix.
Et nous sommes toujours en ligne avec Cerise et son conjoint Arthur qui ont vécu pendant 4 ans à distance, Arthur étant aux États-Unis et Cerise dans la région parisienne. Je me tourne vers vous, Arthur. La distance, c'était quelque chose qui vous faisait peur au début. Comment viviez-vous l'absence de Cerise au quotidien, les premières années?
Bon, déjà, la distance ne me faisait pas particulièrement peur. Je sais qu'il y allait avoir des moments difficiles et ça allait être un peu compliqué de part et d'autre pour pouvoir vivre une relation assez normale.
Oui.
Et bon, au quotidien, le fait de pouvoir l'avoir au téléphone, la voir et tout, partager mon quotidien, mes journées, lui parler de mes journées, ça m'aidait beaucoup à pouvoir supporter la distance.
Mmh. Il est certain qu'avec ces applications aujourd'hui, hein, WhatsApp, je ne sais plus comment s'appelle l'autre application,
Skype. Mais
Skype, mmh. Voilà, c'est vrai qu'il y a quelque chose de, voilà, qui rapproche aujourd'hui, puisqu'on peut voir l'autre hein, en temps. Vous avez eu un bébé tous les deux, alors que vous n'habitiez pas sur le même continent.
Oui.
Cerise, comment s'est passée la grossesse sans la présence d'Arthur, sans son soutien au quotidien?
Je ne veux pas vous mentir, c'était assez difficile pour la simple raison, enfin, difficile et frustrant, puisque sentir le bébé, les mains, enfin, le main sur le ventre, sentir le bébé, les échographies, etc., je le faisais sans lui. Mais bien évidemment, je suis allée dans un centre échographique où je pouvais avoir un DVD pour pouvoir lui envoyer les images, donc qu'il puisse aussi le voir.
Oui.
Après, je n'ai pas eu de fringale, d'envie de glace à la carotte à 3h du matin pour le pousser à l'envoyer le chercher, etc. C'est, tout ça, c'est pas possible à distance. J'ai dû effectivement me débrouiller toute seule.
Oui.
Mais il était très présent malgré l'absence physique. Il était très attentif, forcément un peu plus inquiet puisqu'il ne pouvait pas être là. S'il y avait un problème, mais il était suffisamment présent pour que je sois sereine.
Est-ce que c'est un rythme, une habitude à prendre de vivre sans la présence de l'autre comme ça?
Oui, on finit par s'habituer,
oui.
Non?
Oui, on s'habitue, mais bon, il y a toujours le manque.
Oui, voilà, le manque ne disparaît jamais, mais on s'y fait. C'est-à-dire que ça devient une routine. Voilà.
Est-ce qu'il y a des moments qui sont plus pesants que d'autres? Alors là, vous avez évoqué la grossesse. C'est vrai qu'on aime avoir son conjoint à côté pour ne serait-ce que poser les mains sur le ventre, partager des moments importants comme celui de la grossesse. Mais qu'est-ce qui était le plus dur à supporter pour l'un et l'autre? Les moments les plus pesants?
Bon, je dirais déjà, après la naissance de notre fille, ne pas pouvoir assister aux différentes évolutions de notre enfant, par exemple, quand il a fait ses premiers pas,
oui.
Ou quand il a commencé à dire papa ou maman, j'ai pas été là pour assister à tout ça, et voilà, c'est ça qui rend un peu difficile cette relation à distance et... être parent à distance.
Voilà, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on pourrait penser, effectivement, les moments douloureux, donc les moments durs de la vie et de ne pas être ensemble, c'est difficile, mais en fait, les moments joyeux aussi, de ne pas pouvoir les vivre à deux, c'est aussi assez difficile. Ou par exemple, quand moi, on m'invitait à des mariages, bah, j'étais obligée d'y aller seule comme si j'étais célibataire, alors que moi, mon compagnon est juste de l'autre côté de la planète.
Oui.
Voilà, des choses comme ça, ou des grands rassemblements familiaux, ou des choses comme ça, des moments heureux, en fait, finalement, où on est obligé d'être tout seul. Alors qu'on pourrait être à deux et les célébrer à deux. Ça, c'est un petit peu pesant, effectivement.
Aujourd'hui, Arthur, vous avez déménagé en France, donc, et vous vous êtes donc retrouvés tous les deux. Est-ce que ça a été facile de trouver sa place ? Est-ce que tout ça s'est fait naturellement ?
Oui, ça fait plutôt naturellement. Ma fille m'a immédiatement laissé ma place et m'a accepté comme étant voilà, son père. Et voilà, la transition était plutôt facile, je dirais. Bon, voilà, il y a eu aussi voilà, pouvoir prendre le rythme. Les nuits blanches, notre fille fait toujours pas ses nuits. Donc voilà, pouvoir s'habituer à tout ça et prendre le rythme, c'est bon, un petit peu difficile, mais maintenant ça va.
Le fait qu'il ne fasse pas ses nuits au bout de deux ans, hein, ça correspond peut-être au fait que vous lui manquiez peut-être hein, au début. C'est fort possible. Quel conseil vous donneriez aux couples qui vivent à distance, Cerise ?
Je crois que Arthur est d'accord avec moi pour que ce soit la communication.
Oui.
On le dit à chaque fois, mais c'est véritable. C'est pas un cliché, c'est vrai. Il faut pouvoir savoir se parler, s'écouter et surtout expliciter. En fait, on ne le dit pas assez, mais expliciter quand ça ne va pas et expliciter quand ça va. Puisque tout le langage non-verbal qu'il peut y avoir entre un couple, par exemple, si je me mets à bouder et que je décide de ne plus parler de la soirée, Arthur peut très vite s'en rendre compte si on vit ensemble. Mais si on ne vit pas ensemble, à la caméra ou au téléphone, ça ne s'entend pas et il peut mettre franchement facilement 4-5 jours avant de se rendre compte que je suis fâchée si je ne lui dis pas, je veux dire, si je ne l'explicite pas. De la même manière... Les marques d'attention, l'amour, tout simplement, j'ai besoin de l'expliciter. Peut-être qu'un regard ou simplement le prendre la main montre que je l'aime, que voilà, je suis en communion avec lui. Mais si on est à distance, bah, c'est de parler, de tout dire. Donc, tu me manques, je t'aime, j'ai envie de toi. Enfin, des choses comme ça, des trucs aussi bêtes que ça, mais de les expliciter parce qu'à distance, c'est nécessaire puisqu'il n'y a plus de communication non verbale.
Expliciter et communiquer, ce sera votre devise à tous les deux, Cerise et Arthur. Merci pour votre regard croisé, votre témoignage. Dans quelques instants, nous serons avec Christophe Giraud. Il est sociologue et professeur de sociologie à l'Université Paris Descartes.
Europe 1. Vous vous reconnaissez dans le témoignage de Cerise et d'Arthur qui ne vivent pas sur le même continent. Venez nous raconter votre histoire au 39-21. Vous vivez loin l'un de l'autre et est-ce que ça fonctionne ? Vous pouvez également nous écrire via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous composez le 39-21 pour venir échanger avec Olivier Delacroix cet après-midi jusqu'à 16h. Vous vivez une relation longue distance épanouie ou alors pour vous l'amour ne peut pas résister quand on est loin l'un de l'autre. On vous lit également sur Twitter #Europe 1.
Et nous sommes maintenant en ligne avec Christophe Giraud qui est sociologue et professeur de sociologie à l'Université Paris Descartes. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour. On parle souvent des couples TGV, ces couples qui ne vivent pas ensemble la semaine, mais qui se retrouvent le week-end. Peut-on dire que c'est un nouveau phénomène et un phénomène grandissant ?
Non, ce n'est pas un phénomène nouveau. Il existait déjà depuis très longtemps. Il y a des formes qui sont des formes canoniques bien connues, les marins-pêcheurs par exemple. Qui sont particulièrement en Bretagne, donc bien connus. Il y a des exemples aussi dans l'agriculture d'agriculteurs qui migraient une partie de l'année et qui quittaient leur exploitation agricole, laissant la femme et les enfants sur l'exploitation. Donc non, c'est pas du tout des choses qui sont nouvelles.
D'accord. L'auteur Isabelle Berthaud-Viam, auteur de l'ouvrage Intermittent du foyer, couple et mobilité professionnelle, évoque l'idée que l'accomplissement personnel passe aujourd'hui par l'épanouissement au travail. Cela pourrait expliquer le phénomène des couples TGV et des relations à distance ?
Alors là, effectivement, je coïncide tout à fait avec Isabelle Berthaud-Viam, c'est-à-dire que désormais, hommes comme femmes ont cette exigence finalement de réussir leur vie professionnelle, de trouver une activité professionnelle qui les épanouit. Et de ce point de vue-là, ces obligations reconnues dans le couple peuvent mener à des accords à l'intérieur du couple pour que l'un passe une partie de la semaine donc dans un endroit où il va travailler, où il va avoir un emploi qui sera valorisant, et l'autre va rester donc dans un premier lieu. Donc effectivement c'est quelque chose qui explique les couples TGV, on va dire, alors que dans les années 70 une femme aurait aurait pu suivre, on va dire, son partenaire masculin si celui-ci déménageait pour raisons professionnelles.
Mmh. On pense beaucoup au proverbe « loin des yeux, loin du cœur ». Les femmes et les hommes peuvent-ils vivre loin l'un de l'autre longtemps ? Et est-ce qu'il y a une plus grande résistance des uns, des unes ou des uns ?
Alors dit comme ça, ça paraît assez absolu, il n'y a pas de loi aussi stricte, d'autant qu'on voit dans le cas de Cerise et d'Arthur combien finalement vivre loin est une réalité qui, on va dire, qui amène à être nuancée, c'est-à-dire qu'au quotidien, ils sont quand même tout le temps ensemble, au sens où tous les soirs, ils se communiquent par Skype. Donc, vivre loin, si c'est vivre loin et n'avoir aucune nouvelle comme les marins-pêcheurs, effectivement, aujourd'hui, je pense que c'est extrêmement compliqué. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, le couple se bâtit d'abord sur la discussion, le partage, l'échange.
Oui, comme le disait Cerise d'ailleurs, en fait.
Exactement.
Expliciter, communiquer.
Tout à fait. Le témoignage de Cerise me paraît tout à fait, on va dire, typique de des types de couples qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire, on est dans des couples qui discutent, qui ont besoin d'expliciter les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Donc, la communication est centrale. Et de ce point de vue-là, vivre à distance, mais être en communication par Skype tous les soirs, c'est quelque chose qui peut être une situation particulièrement positive pour le couple, en dépit de la distance. C'est très différent des marins-pêcheurs, effectivement.
Ouais. Est-ce que vous constatez que la réussite d'une telle relation, elle est surtout réservée à une classe sociale aisée, ou alors ça touche toutes les catégories socio-professionnelles ?
Alors ça touche un thème qui ne fait pas unanimité, on va dire, dans les études sur la famille, à savoir justement le poids de la discussion. Oui. De mon point de vue, en fait, cette recherche d'une intimité satisfaisante, où on se sent écouté, où on se sent aimé pour soi-même, où on peut partager ses doutes avec son partenaire, de mon point de vue, c'est quelque chose qui est extrêmement transversal, en fait, dans la société, en fonction de tous les milieux sociaux. Mais il est possible, et d'autres collègues, insistent davantage sur le fait de partager le quotidien, sur l'idée de fusion qui existerait dans certains couples, plutôt dans les milieux populaires. Donc de ce point de vue-là, si on suit ces auteurs-là, la distance est dans ce cas-là plus difficile à accepter. Mais il faut bien voir, en fait, et c'est le cas de Cerise, est intéressant parce qu'il n'explicite pas tout à fait cette dimension-là, mais il faut voir en fait que la distance, c'est toujours une distance qui doit être apportée à un espace, à un temps, une durée particulière. C'est-à-dire que si deux amoureux, on va dire, s'éloignent en raison d'un Erasmus, on sait que l'Erasmus va durer un semestre, une année. Oui. Donc c'est une distance quand même qui est
vivable,
qui n'est jamais définitive, oui. et qui ouvre vers un rapprochement, une installation peut-être possible après. Mm-hmm. Donc c'est quand même très très différent. Là, dans le cas de Cerise et d'Arthur, les choses paraissent pas si claires que ça. On ne sait pas quand est-ce qu'Arthur devait rentrer, s'il avait la possibilité de rentrer. Les choses devaient être un peu moins confortables, je dirais.
Christophe Giraud, je rappelle que vous êtes sociologue et professeur de sociologie à l'Université Paris-Descartes. Vous restez en ligne avec nous, vous allez continuer à nous accompagner pour nous éclairer sur ce thème des couples qui vivent à distance. Dans quelques instants, nous accueillerons Isabelle. Elle a été célibataire géographique pendant 4 ans, car son mari travaillait au Nigeria. Cela n'a pas été une expérience facile, surtout on va le voir pour les enfants.
Europe 1.
Pas dans la même ville, pas dans le même pays. Comment arrivez-vous à préserver votre couple malgré les kilomètres ? Vous nous racontez au 39-21. Serge Gainsbourg et son grand classique de 1969, Elisa, événement. Europe 1 vide une partie de cette discothèque, figurez-vous, et met en vente 25 000 vinyles, tous styles et formats confondus. Rendez-vous ce samedi 8 juin à Paris, à la mairie du 15e arrondissement, de 10h à 18h. Alors attention, les places sont limitées, inscrivez-vous via le club Europe 1 pour être assuré d'avoir votre entrée.
Là, il va y avoir du collector.
Oui. Oui, il y a beaucoup de choses et tous les styles, rock, pop, chansons françaises. Nous parlons de l'amour malgré la distance avec vous, Olivier Delacroix. Vous nous racontez votre histoire au 39-21.
Et nous sommes en ligne avec Isabelle. Bonjour Isabelle, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Alors, j'ai 56 ans et j'habite Paris actuellement.
D'accord. Alors, vous dites que pour vous, la relation à distance a été un non-choix. Comment cette décision s'est-elle imposée à vous déjà ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous habitions dans un pays en Afrique et mon mari a été muté dans un autre pays en Afrique alors que nos enfants arrivaient à un âge, l'une partir pour faire des études, donc oui. elle a fait le choix d'aller en Espagne, et puis l'autre, ben, on voulait le remettre dans un système français, système scolaire français pour son lycée, et puis j'avais des parents vieillissants, je voulais accompagner la fin de vie de mon père, et puis je voulais reprendre une activité professionnelle. Donc il y avait plein de choses qui m'ont poussée à revenir et à prendre cette décision de séparation physique.
Vous parlez dans cette séparation beaucoup de solitude, de manque. Comment est-ce que vous avez gardé le moral? Est-ce que vous arriviez à positiver à certains moments?
Ce qui aide, c'est un peu d'être dans le mouvement. C'était une espèce de déséquilibre avant, tout le temps dans le mouvement. Moi, de toute façon, j'étais dans le mouvement parce que j'avais les deux enfants. Je m'étais retrouvée seule, finalement, avec les deux enfants. Donc, une à gérer à distance. Oui. Et puis, à gérer entièrement la maison. Ma situation professionnelle, j'ai même dû acheter un cabinet. J'ai géré absolument tout ce que je faisais avant à deux. Ben, j'ai fait ça toute seule. Et donc là, j'étais extrêmement occupée. Et c'est surtout dans l'action que j'ai supporté cette séparation, cette solitude, et puis des amis que j'avais, puisque je revenais en France chez moi, donc oui, j'avais aussi ma famille et mes amis,
ce que
mon mari n'avait pas. Justement.
Vous deviez vous sentir rassuré déjà par cet entourage qui, à ce moment-là, a beaucoup d'importance dans ces manques et pour garder le moral. Votre fils avait alors 15 ans, hein. Comment est-ce qu'il a vécu la distance, lui?
Alors pour lui, c'était difficile puisque lui, ben, il entrait dans sa phase de crise d'adolescence et il n'a pas pu avoir son père en confrontation. La communication par Skype ou téléphone, ben, finalement, ça ne marchait pas pour lui. Et donc, il y a eu une absence de son père que j'ai essayé de compenser, alors à la fois en cadrant et puis en étant présente et en encourageant. Mais effectivement, il y a eu une absence pour lui. Qu'il n'a pas trop rattrapé après, parce qu'après, il est parti faire ses études en province.
Oui, parce qu'à 15 ans, c'est important aussi d'avoir son père et sa mère, parce que c'est un âge où on est en pleine construction. Isabelle, vous restez en ligne avec nous. On va continuer à parler de cette relation à distance et voir comment tout cela a évolué dans quelques instants.
Europe 1.
Loin des yeux, loin du cœur, on l'a beaucoup dit hein, depuis 15h tout à l'heure. Et c'est un proverbe qui vous parle, 39-21 pour témoigner. Vous pouvez poser vos questions également et nous écrire sur Twitter, hashtag Europe 1. Peu importe le temps, peu importe la distance, chante Alicia Keys. Votre amour est plus fort que les kilomètres qui vous séparent et ces périodes pendant lesquelles vous ne vous voyez pas. Le 39-21 pour témoigner, pour nous raconter votre vie à deux. Quand on est loin l'un de l'autre, vous retrouvez Olivier Delacroix.
Et nous sommes toujours avec Isabelle qui nous racontait avoir eu envie de rentrer en France au moment où son mari avait été muté dans un autre pays d'Afrique. Et que finalement c'était votre fils hein, de 15 ans, Isabelle, qui avait eu du mal hein, lors de cette période. Mais revenons à vous. Vous est-il arrivé de douter, d'avoir envie de dire stop à cette situation?
Pas tellement, finalement. Ouais. Pas tellement parce que nous avions 20 ans de vie derrière nous, de vie commune derrière nous, et on avait eu le temps de construire notre couple, d'avoir de construire de la confiance, de se connaître, de se comprendre. On se voyait sur Skype régulièrement, et moi, je voyais tout de suite ce qui allait, ce qui allait pas. Je pouvais répondre, et finalement, je crois que ce qui m'a aidée, c'est vraiment ces 20 ans. Et j'ai pas du tout regretté d'avoir fait ce choix d'un point de vue personnel, parce que moi, j'avais professionnellement, personnellement, familialement, j'aimerais en venir. Et ça a été difficile, hein. Je ne dis pas que ça a été difficile, mais ça a été aussi enrichissant. Je crois que notre couple aussi a
traversé l'épreuve.
On a pris... Oui, tout à fait. Mm-hmm. Ça n'a pas été facile. Hein.
Vous dites que votre mari a ressenti de la culpabilité. Que voulez-vous dire par là? Dans quel sens a-t-il ressenti cela?
C'est-à-dire que lui, il était loin, il était impuissant à pouvoir m'aider. Oui. Parce que quand j'avais des problèmes, quand c'était difficile, lui, il était loin, il ne pouvait pas m'aider. Et nous avions vraiment une vie très différente tous les deux, et c'était ça la difficulté, c'est le décalage de nos deux vies. Moi, je pouvais comprendre sa vie parce que je savais ce que c'était qu'arriver dans un nouveau pays, même si je ne connaissais pas la culture de ce pays, qui était aussi très dangereux. Lui, il imaginait plein de choses, toutes les difficultés, je ne lui faisais part, et il me soutenait, mais à distance, et ce n'est pas pareil d'être le soir et de parler, d'échanger tous les soirs sur les petits problèmes du quotidien. Mmh. Je devais faire face à tout, et lui savait bien que c'était cette situation, que je faisais ça.
Et puis votre mari est revenu à la maison, Et on parle là de cette réadaptation, parce que quand on s'est habitué à vivre sans l'autre, l'autre à un certain moment, est-ce que cette période de réadaptation, elle est si facile à assimiler ?
Non, il faut tenir compte de cette période, elle n'est pas si facile, parce qu'effectivement, moi j'avais appris à me débrouiller seule pour tout, et puis j'étais contente quand il était là, mais j'étais totalement autonome, et très indépendante plus exactement, et puis ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais fait déjà ma réinsertion dans la société française, oui. qui prend toujours au moins une année pour se remettre, pour se ressentir français en France.
Ça faisait combien de temps, pardonnez-moi de vous interrompre, mais ça faisait combien de temps que vous viviez en Afrique, parce que c'est important
C'est-à-dire qu'on avait vécu 4 ans dans un pays d'Afrique, mais avant, il y avait eu d'autres expatriations. En 20 ans, c'était premier pays d'Afrique, là, c'était notre quatrième expatriation.
D'accord. Donc, vous parliez de votre indépendance, justement, et que ça a été une période de réadaptation pas facile, hein, finalement, parce que vous aviez pris vos manies, même. Vous étiez habitué à être seul.
Oui, j'avais pris tout l'appartement pour moi, quoi.
Et là, il fallait partager à nouveau.
Voilà, c'est ça. Alors, ça se fait très bien, parce que je savais ce que mon mari vivait, donc j'arrivais à ménager, et puis lui aussi. Mais c'était vraiment... lui, il était encore un peu là-bas. Il parlait tout le temps de son expérience, alors que nous, on voulait parler d'ici, de la France.
Oui, du présent.
Était complètement. Oui. Exactement. Alors que lui, il était encore un peu entre les deux pays.
Avec du recul, Isabelle, est-ce que vous diriez que cette expérience a renforcé votre couple ?
Alors oui, ça a renforcé notre couple, mais encore une fois parce qu'on avait déjà une bonne base. Si on n'avait pas eu cette bonne base, cette bonne compréhension, cette bonne confiance, je pense que ça aurait été une difficulté, une très grande difficulté pour le couple.
Mmh. En tout cas, aujourd'hui, force est de constater que vous êtes toujours ensemble, de retour en France et bien adapté à la vie de votre pays. Et je pense que, bien entouré de vos amis et dans une nouvelle vie qui est la vôtre aujourd'hui. Merci beaucoup, Isabelle, pour votre histoire, d'avoir partagé votre témoignage avec nous cet après-midi. Nous serons dans quelques instants avec Océane. On va voir qu'à cause des études et du travail, elle a été séparée plusieurs fois de son compagnon, et on va voir comment elle a vécu cette séparation.
Europe 1. La distance qui est synonyme d'absence, un couple peut-il résister à la séparation physique ? Vous nous racontez votre histoire jusqu'à 16h39-21. Est-ce que le couple peut supporter la distance ? Vous retrouvez Olivier Delacroix.
Et nous sommes toujours en ligne avec Christophe Giraud, sociologue et professeur de sociologie à l'Université Paris-Descartes. Et avant d'accueillir Océane, Christophe Giraud, j'ai une question en ce qui concerne la situation de ces couples à distance. On vient d'entendre Isabelle qui nous expliquait avoir choisi de rentrer en France, alors que son mari, lui, continuait sa carrière d'expatrié en Afrique. Et je me posais la question s'il y a une situation qui est plus facile à vivre pour l'un ou pour l'autre, celui qui part, qui prend la décision de partir. Est-ce que c'est plus facile à vivre cette relation lorsqu'on a pris la décision ?
Ça paraît, c'est difficile à dire. On n'avait que le témoignage d'Isabelle ici, mais elle signalait quand même qu'il y avait... une forme de culpabilité de la part de son conjoint qui ne l'avait pas suivi. Ce qu'on peut dire en tout cas, me semble-t-il, c'est que les choses sont assez différentes selon qu'on a un enfant ou qu'on n'a pas un enfant.
Oui.
Et le cas 1 montre pas que c'était une situation le cas 1 qu'on a eu déjà, donc montrer une sorte de frustration de pas être présent tous les soirs, de pas avoir l'autre physiquement avec soi, mais il y avait pas la responsabilité d'un enfant qui est fait à deux et qui dans le projet est destiné à être élevé à deux. Alors à la fin, on va dire, ils ont fait un enfant évidemment, et ils sont venus s'installer ensemble. Mais là, dans le second cas, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Ils ont des enfants, ces enfants sont grands, ils les ont assumés à deux, et le moment de la séparation, c'est un moment, on va dire, de déprise pour le partenaire qui reste tout seul, et puis de surcharge pour le partenaire qui, lui, on va dire, va s'occuper des enfants. Et j'avoue que c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à gérer, et ça se retrouve dans les statistiques, c'est-à-dire que ces couples non cohabitants, d'un point de vue statistique, sont très fréquents au moment de la jeunesse, quand les individus n'ont pas encore d'enfants, quand ils ne se sont jamais installés ensemble, donc c'est pas un départ. Et alors qu'ils sont extrêmement rares dans le second cas, donc qu'on a eu néanmoins d'Isabelle, où on est à deux et on se sépare géographiquement pendant un ou deux ans. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus rare.
Isabelle évoquait d'ailleurs son trait de personnalité d'indépendance. Hein. Je pense qu'il faut quand même avoir ce trait de caractère pour assumer ce type de situation. Vous évoquiez tout à l'heure, Christophe Giraud, justement, lorsqu'on fait Erasmus et qu'on sait qu'on va être séparés, mais sur une courte distance. On va en parler en ligne maintenant avec Océane. Bonjour Océane, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Merci, bonjour Olivier.
Bonjour, quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Océane ?
J'ai 27 ans et je vous appelle de Paris.
D'accord, alors vous êtes avec votre conjoint depuis 5 ans oui. Et au bout d'un an de relation, vous êtes parti faire une année d'Erasmus en Pologne. Est-ce que vous appréhendiez la distance alors que votre couple était encore très jeune ?
Oui, bien sûr que j'appréhendais, ça faisait un an, du coup notre relation a été, je dirais, assez passionnelle, on passait énormément de temps ensemble, on était un peu collés, voilà,
oui.
Et du coup, passer un an loin du quotidien de l'autre, ça me faisait peur, mais d'un autre côté, j'ai toujours voulu vivre une expérience à l'étranger, et là, je sentais que c'était le bon moment. Mmh. Donc je suis partie là-bas, j'ai rencontré un tas de monde, je me sentais entourée. Et puis il faut dire aussi qu'on se voyait quand même beaucoup, on était à seulement 2 heures d'avion, mais il me manquait quelqu'un, et puis au fur et à mesure, je sentais que ce sentiment de manque prenait un peu trop de place.
Mmh. Alors, vous êtes revenu en France au bout de cette année d'Erasmus, vous avez décidé de vous installer ensemble, tout s'est bien passé, mais au bout de 4 ans de relation, c'est votre conjoint qui vous a annoncé qu'il partait à New York pour un an pour travailler. Comment est-ce que vous avez pris cette nouvelle, car là, c'était lui qui partait?
J'avais l'habitude de dire que 90% de moi était vraiment ravie, hyper enthousiaste pour lui, parce que je savais que c'était une chance, qu'il avait cette expérience à vivre comme moi je l'avais vécu, donc je comprenais totalement là où il en était au moment où il a appris sa nouvelle. Mais forcément, les doutes s'installent, le 10% restant, je me disais que ça allait être compliqué, qu'un an en plus à New York, c'est pas comme en Pologne en Erasmus, c'est quand même avec un décalage horaire de 6 heures. Et puis là, je me suis dit, bon, il va falloir que je fasse quelque chose de cette année et essayer de voir ça comme un truc un peu positif. Et puis voilà, revivre un peu toute seule, prendre mon indépendance, faire d'autres choses.
À votre avis, que faut-il faire? Quel type de concession faut-il faire pour que le couple supporte justement cette distance quand on est en plus aussi jeune?
Concession, j'ai un peu du mal avec
alors,
ce
concession,
mot.
Autre chose, hein, je dis concession moi, mais c'est, ça n'est pas
oui,
peut-être
oui,
de
comprends.
Cette nature.
Un peu les bons tips, les conseils pour peut-être faire durer une relation à distance. Je pense qu'il faut surtout beaucoup s'écouter.
Oui.
Et puis surtout être un peu loin de tous ces petits détails du quotidien. Voilà, il m'a pas répondu pendant 2 heures, j'arrive pas à l'avoir au téléphone, il me parle pas trop. C'est ce genre de petits problèmes qui peuvent prendre de l'ampleur, et je pense qu'il faut apprendre à se raisonner, à s'écouter, et puis à se dire que c'est pas grave, demain sera un autre jour. Il vit un super truc, moi ça va, on est ensemble et c'est ça qui compte.
Positiver, expliciter et communiquer, comme le disaient Arthur et Cerise en début d'émission. Je vois, Océane, que vous étiez aussi dans cela lorsque votre conjoint est parti, et combien vous avez su gérer, plutôt jeune, hein, cette distance dans votre couple. Mille merci pour votre témoignage cet après-midi sur l'antenne d'Europe 1. Merci aussi à Cerise, à Arthur, à Isabelle de nous avoir appelés. Merci à Christophe Giraud pour ses analyses et ses éclairages. Alors, il n'y a pas de recette miracle. miracle. Être loin de l'autre n'est pas facile et cela demande quelques efforts. Il faut composer avec le manque au quotidien, se créer une vie différente. Mais on peut aussi y trouver son compte avec plus d'autonomie, plus d'indépendance, faire des choses pour soi, en profiter en tout cas. Il semble important de communiquer dans tous les cas, car comme on l'évoquait, il vaut mieux dire les choses, car on ne peut pas les montrer à ce moment-là. Donc de plus en plus parler, expliciter, et puis le temps passe, et puis on finit toujours par se retrouver. Vous pouvez continuer à en discuter, bien évidemment, sur les réseaux sociaux.
Oui, sur le groupe de l'émission, sur la page Facebook d'Europe 1, Instagram, Olivier de la Croix officielle. Et puis vous le savez, le soir vous pouvez également vous confier et échanger avec Sophie Peters, la libre antenne d'Europe 1 de 22h30 à 1h du matin.
Europe 1.
Demain nous parlerons du naturisme. La France est aujourd'hui la première destination naturiste du monde. Pourquoi fait-on ce choix du naturisme? Ce sera donc notre sujet de demain. Alors si vous pratiquez le naturisme depuis toujours, si votre partenaire essaye de vous convaincre mais que vous hésitez encore à sauter le pas, si vous venez de vous mettre au naturisme, eh bien appelez-nous au 3921 pour nous parler de votre histoire. Et oubliez-moi, nous serons là pour vous écouter